maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons.
De la parole de Dieu dans le livre des psaumes qui exprime bonheur et action de grâce, le psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, Seigneur, nous sommes par grâce ton peuple et le troupeau de ta pâture. Nous n'avons rien à faire valoir devant toi sinon l'œuvre de Jésus. Et nous te remercions pour la place où nous met cette œuvre de notre Sauveur, de notre Seigneur, Jésus-Christ. Merci de ce qu'en lui nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, comme cela nous a été rappelé pendant ces jours. Seigneur, oui, veuille inspirer ce culte que nous te rendons. En effet, Seigneur, nous ne venons pas au culte ce matin, mais nous rendons culte tous ensemble. Et Seigneur, nous te demandons d'inspirer ce culte en tout point, que tu conduises aussi notre frère particulièrement dans le message qu'il apportera et que tu veuilles, Seigneur, bénir richement parmi nous et donner d'être très puissamment bénédiction parmi nous comme ils l'ont été. D'ailleurs, déjà, nos chers frères Jean Boss et Jacques Heiniger. Seigneur, notre Dieu, gloire et louange à ton nom parce que tu prends soin de ton Église et parce que ton Église progresse par la vertu de ta grâce et de ta force toute puissante. Louange et gloire à ton nom pour les ministères que tu donnes à l'Église, pour les dons spirituels que tu déverses sur nous. Seigneur, nous nous inclinons devant toi et ce matin, tous ensemble, unis dans la même louange, nous adorons celui que tu nous as donné, le Seigneur de gloire. Et c'est par lui que nous faisons monter à toi nos hommages et que nous nous prosternons devant ta gloire, devant toi, notre Dieu, notre Père. Amen.
Seigneur, nous avons besoin de ton onction sainte, afin que cette parole ne soit pas une lettre morte, mais une parole vivante pour chacun d'entre nous. Merci pour ta grande fidélité. Tu viens toujours au secours de celui qui a faim et soif de toi, de celui qui veut toujours mieux te connaître dans ta puissance de vie et de résurrection. Aide-nous maintenant à comprendre ta parole. Donne-nous aussi un cœur obéissant à ta voix, et que cette parole nous nourrisse réellement et nous transforme intérieurement. Nous sommes devant toi, Seigneur, comme un enfant devant son père, et nous te disons, parle, Seigneur. Tes serviteurs, tes enfants écoutent. À toi notre hommage et notre reconnaissance. Amen.
Amen.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Le message sera donc spécialement pour la consécration des anciens, mais les qualités que Dieu demande pour les uns, il les demande aussi pour les autres. C'est pourquoi le message s'adresse à nos chers amis d'abord, mais aussi au peuple du Seigneur. Et nous allons voir les quatre qualifications d'un ancien afin qu'il puisse accomplir convenablement l'œuvre que Dieu leur demande. Et ces quatre qualifications doivent aussi se trouver en chaque chrétien, afin que Dieu puisse aussi les utiliser. J'aimerais qu'on lise un premier passage dans 1 Timothée, chapitre 3, et les 7 premiers versets. 1 Timothée, chapitre 3, les 7 premiers versets. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, et dans les pièges du diable. Un deuxième passage maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 6. Il est question de l'institution des diacres ici, mais nous le remarquons dans la parole de Dieu, les qualités spirituelles que Dieu demande d'un diacre, il le demande aussi d'un ancien. Nous lisons ce passage maintenant. Actes 6. Les 6 premiers versets, et c'est dans ces versets-là que nous allons découvrir 4 qualités, qualifications importantes pour un diacre ou pour un ancien. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. C'est donc ce que les anciens feront tout à l'heure. Ils imposeront les mains afin que de les consacrer à cette tâche et que le Seigneur utilise ses frères pour la gloire de son nom et l'édification de son peuple. Voyons maintenant ces 4 qualifications indispensables pour quelqu'un qui veut des responsabilités dans l'Église, et en particulier pour les anciens. Au début, au verset 1, nous voyons là une pensée importante. Il est dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligés, soulignez bien cela, ils étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il y a eu donc un problème de négligence dans cette première église. Et à cause de la négligence, eh bien, il y a eu des problèmes. Alors, quelle est donc la première qualification? C'est celle-ci. L'ancien, le responsable, doit être un homme fidèle dans les moindres choses. Pourquoi y a-t-il eu de la négligence? Parce qu'on a considéré certaines petites choses non importantes. Et c'est ce qui se passe malheureusement bien souvent. Surtout quand on veut avoir une responsabilité, on peut avoir la folie des grandeurs d'un seul coup. Et il y en a qui peuvent demander une tâche parce qu'il y a la folie des grandeurs. Je ne crois pas qu'il en est ainsi pour mes frères, bien sûr. Mais nous avons lu tout à l'heure dans l'Épître à Timothée qu'il y en avait qui avaient cet esprit-là et il leur disait qu'il ne soit pas un jeune converti, qu'il soit éprouvé, afin qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Et quel était le piège du diable? C'était l'orgueil spirituel. Et qu'est-ce qu'un orgueilleux? Le mot orgueilleux veut dire regardez quelqu'un de haut. Voilà ce que c'est. On regarde quelqu'un de haut. On se croit supérieur à un autre. Voilà l'orgueilleux. C'est quelqu'un qui se croit supérieur à un autre. Et alors naturellement, quand nous sommes dans cet esprit-là, la Bible dit bien, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la ruine et la chute. Donc une première qualification très importante, c'est cette fidélité dans les moindres choses. Quelqu'un a dit un jour, dans les grands services, nous voyons les possibilités d'un homme, mais dans les petits services, nous voyons sa consécration. Et je crois qu'avec le Seigneur, ça commence toujours petit. Je l'ai toujours vu autour de moi, et vous l'avez certainement vu. Quand on veut commencer grand, on finit toujours très petit. Et puis bientôt, il n'y a plus rien du tout. Mais avec le Seigneur, on commence toujours petit. Et c'est là que Dieu nous éprouve. Et il fera tout pour voir si nous sommes fidèles dans les petites choses. Pourquoi est-ce qu'il y avait des négligences? Les moindres choses étaient négligées. Il y avait une question de favoritisme. On tenait compte des uns, on ne tenait pas compte de l'autre. On travaillait, mais pas dans un bon esprit. Voyez-vous, on peut faire beaucoup de choses, mais pas dans un bon esprit. J'ai cette pensée que j'aime beaucoup. Voilà comment on devrait travailler. On devrait faire les choses ordinaire d'une manière extraordinaire. Et les choses extraordinaires d'une manière ordinaire. Si quelqu'un travaille comme cela, il sera utilisé par le Seigneur et il sera béni et en bénédiction aux autres. Amen.
Amen.
Je répète, c'était une bonne pensée, vous ne trouvez pas? Nous devons faire les choses ordinaires comme si elles étaient extraordinaires. Et les choses extraordinaires comme si elles étaient ordinaires. Un tel état d'esprit glorifie le Seigneur. Et je suis sûr que lorsque nous avons cette pensée en nous, Dieu utilisera quiconque au milieu de nous, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Et en particulier, les anciens. Voyons maintenant une deuxième qualification. Au verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. » On doit rendre d'eux un bon témoignage. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà la deuxième qualification maintenant. C'est un homme qui vit ce qu'il dit. Si tout à l'heure, le péché qui fait tomber beaucoup d'anciens, de pasteurs, de prédicateurs et même des chrétiens, c'est l'orgueil, il y en a un autre maintenant, c'est l'hypocrisie. On doit rendre de lui un bon témoignage. Pas seulement lui-même rendre un bon témoignage, mais les autres doivent rendre de lui un bon témoignage. Parce que nous, on peut se faire des illusions sur son compte, n'est-ce pas vrai? Parce qu'on a toujours un bon témoignage à rendre de nous-mêmes. Même lorsqu'il est minable. Même lorsqu'il n'y a rien du tout. Parce qu'on se fait facilement des illusions sur son compte. Non, lorsqu'il y a un bon témoignage, les autres s'en rendent compte. Il n'est pas question ici d'être parfait. Attention. Je fais la différence entre être un exemple et être parfait. L'ancien doit être un exemple. Nous avons ce verset dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre 5, 4. C'est très important. 1 Pierre 5, 4. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais l'ancien doit être donc, mais étant les modèles du troupeau. Et qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, ce n'est pas toujours être parfait, mais un modèle, selon la pensée ici, c'est tout simplement vivre ce que l'on dit. Car si Dieu attendait des hommes et des femmes parfaits, il attendrait encore, n'est-ce pas vrai? En tout cas, le premier qu'il n'aurait pas pris, c'est moi. Et nous réalisons tous cela, n'est-ce pas? Mais, entre être parfait et être un modèle, il y a une grande différence. Si nous ne pouvons pas être parfaits, nous ne le serons pas. Et nous serons parfaits un jour, lorsque nous le verrons, n'est-ce pas?
Amen.
Alors, là-haut, nous serons parfaits. Mais cela ne nous justifie pas pour dire, oh, vous savez, moi je ne suis pas parfait. Et de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, c'est une fausse humilité. La Bible dit bien quand même que nous devons être un modèle. Autrement dit, vivre ce que l'on dit. C'est finalement pas compliqué. Il ne faut pas essayer d'en mettre plein la vue aux gens. Tout simplement vivre. Vivre ce que l'on dit. Si l'on dit quelque chose aux autres, il faut le vivre soi-même. Et si on ne le vit pas, il faut avoir le courage de dire aux gens, écoutez, dans ce domaine-là, moi aussi j'ai des combats, moi aussi j'ai des problèmes, je veux faire mieux, je veux. Mais on n'essaye pas d'en mettre plein la vue. Ce n'est pas un professeur qui parle à ses élèves comme cela, mais c'est quelqu'un qui a à cœur de vivre réellement ce qu'il dit. Et ceci est très, très important, car quelqu'un peut parler et faire sentir aux autres que lui, il n'a pas de problème et que tous les autres ont toujours des problèmes. C'est pourquoi, à entendre certains, on dit, même des gens qui viennent nous voir, par exemple, on dit, vous n'avez pas de problème, vous êtes. Les pasteurs, ils n'ont pas de problème, ils ont toujours. Et nous, on a des problèmes. Bien souvent, on fait croire aux autres qu'on est un peu des super. Et on perd le contact avec les gens. Ils ne viennent même pas nous voir parce que celui-là, il se prend pour un ange. Qu'est-ce que j'aille parler à un ange, moi? Et c'est pourquoi il n'y a pas de contact. On a toujours le sentiment d'être jugé, d'être condamné ou d'être supérieur. Voyez-vous, c'est quelque chose de terrible.
Mais un ancien responsable en rend de lui un bon témoignage, c'est-à-dire que il vit ce qu'il dit, ou il fait tout son possible pour vivre ce qu'il dit. Il n'en met pas la vue, pas plein la vue aux gens, mais de tout son être, il essaye de rester dans cet équilibre-là. Il doit vivre ce qu'il dit non seulement personnellement, mais il doit vivre ce qu'il dit dans sa maison. On l'a lu tout à l'heure, le passage, je le relis, 1 Timothée 3. Je vais le relire maintenant parce qu'il est très important concernant la responsabilité. 1 Timothée 3, 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il doit vivre ce qu'il dit lui-même et il doit le vivre chez lui. Un bon responsable, un bon ancien doit être un bon père de famille. Si un ancien n'est pas un bon père de famille, ce n'est pas un bon ancien. Si un chrétien n'est pas un bon père de famille, ce n'est pas un bon chrétien. Le test de la valeur de quelqu'un se trouve dans la famille. Peu m'importe qui vous êtes à l'extérieur de la maison. Ça, ce n'est rien du tout. On vous applaudit peut-être en dehors de la maison. Mais à la maison, qui êtes-vous? Qui es-tu? Il faut d'abord qu'il dirige premièrement sa maison. Car s'il ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il diriger la maison de Dieu? Donc là, à la maison, il faudra tout faire pour que vous viviez, nous vivions ce que nous disons. Il faut le vivre, là, à la maison. Et c'est là le plus difficile, n'est-ce pas vrai? Il y en a même qui prennent des responsabilités dans l'église parce qu'ils en ont marre à la maison. Ah, j'ai rien pu faire à la maison, au moins je ferai quelque chose dans l'église. C'est une fuite. Oui, si tu as fui la maison, un jour tu fuiras aussi de l'église. Parce que tu n'as pas été éprouvé. Tu as été éprouvé dans la maison, mais tu n'as pas été approuvé. C'est une vérité très importante. Pour la parole de Dieu, le test véritable d'un homme, c'est ce qu'il est dans la famille. Peu importe si c'est un bon parleur, peu importe si c'est un bon organisateur, c'est ce qui est à la famille, dans la famille, qui est important. Car s'il est un bon père de famille, alors voyez-vous, ça coule de source, n'est-ce pas vrai? Si c'est bien s'entendre avec sa femme, dans le pardon, le dialogue, la prière et tout, automatiquement, il arrivera à s'entendre avec les autres chrétiens, vous êtes d'accord avec moi? Mais comment voulez-vous qu'un homme qui ne peut pas s'entendre avec sa femme, qui boude, qui a des histoires et tout, comment voulez-vous qu'il s'entende avec les autres? C'est pas possible. Ou s'il s'entend, c'est de l'hypocrisie. Il veut s'entendre avec les autres, mais avec la personne qu'il faut vraiment s'entendre, il ne veut pas. Je sais que c'est des pilules amères. C'est très difficile à avaler. Mais c'est le bon chemin. Laissez-moi vous dire une chose. C'est le chemin de Dieu. C'est par là que tout commence. Le ministère commence dans la famille. Alléluia. Et celui qui est fidèle dans sa maison, eh bien Dieu lui confiera autre chose aussi. Il dit, bon, mais maintenant, ça va. Je veux pas dire que là, je parle pas de perfection, mais je parle que là, dans la maison, vous faites le maximum pour que tout aille au mieux. Et Dieu, voyant cela, il vous donnera d'autres responsabilités. Mais ça commence à la maison. Ça ne doit jamais être une fuite. Jamais. Et vous ne devez jamais supporter de vous endormir le soir sans vous être mis en ordre avec votre époux ou avec votre épouse. La Bible dit bien que lorsqu'il y a eu quelques bringues, avant que le soleil se couche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre en ordre. Combien de fois le soleil s'est couché sur ta colère? Et ça continue encore? Ça commence à la maison. Et lorsque c'est purifié à la maison, alors, c'est une bénédiction auprès des autres, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Ne l'oublions pas, il vit ce qu'il dit. Et quand il ne le vit pas, il le dit aussi. Voilà. Il faut une grande honnêteté, n'est-ce pas vrai? Une grande droiture, une intégrité de cœur. Voilà les précieux trésors. Il faut qu'on rende de lui un bon témoignage. Il faut que j'aille un peu plus loin. Une troisième qualification maintenant. Au verset 3, toujours à la fin. Alors tout de suite après, il est dit qu'on rende un bon témoignage. Ensuite, qu'il soit plein d'Esprit Saint. Donc la troisième qualification, c'est un homme qui doit être rempli du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Pour distribuer de la nourriture, pour manier la louche, il faut être rempli du Saint-Esprit. Oui, parce que si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, votre louche sera pleine pour les uns, et puis aux trois quarts pour les autres.
Ah, toi, oui, t'es mon cousin, tiens ça.
Reviens vite. Attends. Toi, d'où tu sors, toi? D'où tu sors?
La moitié, c'est ça.
Ah oui, oui, Allez, va vite, j'ai pas le temps.
Rempli du Saint-Esprit pour faire les moindres tâches. Et l'ancien, le chrétien, a besoin d'être de cette plénitude. Mais comment rester rempli du Saint-Esprit? C'est cela, n'est-ce pas, le point important. J'ai noté ici deux pensées très importantes. Vous resterez rempli du Saint-Esprit, je resterai rempli du Saint-Esprit, vous resterez rempli du Saint-Esprit si vous faites deux choses. Premièrement, si vous restez dans un esprit d'obéissance. Avez-vous remarqué, avec tout ce qui s'est fait, eh bien, les anciens, là, n'ont pas rouspété, on les a choisis, et on les voit, ils suivent le mouvement. Il y a un merveilleux esprit d'obéissance. Ils sont disponibles. Ils ne disent pas, mais quand même, vous m'avez choisi pour ça? Moi, j'aurais voulu que vous me choisissiez pour autre chose. Non, il n'y a on ne rouspète pas. On ne murmure pas, il y a un merveilleux esprit d'obéissance. L'obéissance est le chemin de la puissance. Le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent, nous disent les actes des apôtres. Et plus nous obéissons, plus nous serons remplis du Saint-Esprit. Et moins nous obéissons, moins nous serons remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a plusieurs obéissances dans la vie chrétienne. Ça ira jusqu'à la fin. Et chaque fois, Dieu vous placera devant un carrefour où il faudra choisir, il faudra obéir. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Si vous dites non, vous êtes libre. Mais le Saint-Esprit sera limité. Mais si vous dites oui, une nouvelle plénitude se manifestera. Une nouvelle onction se manifestera. Rappelez-vous d'une chose, vous ne resterez jamais rempli du Saint-Esprit si vous n'êtes pas décidé à obéir jusqu'au bout. Amen. Et je sais ce que je dis quand on parle d'obéissance, ça vous coûtera beaucoup. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Deuxièmement, deux pensées, bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses, mais une deuxième chose, en tout cas, que j'expérimente moi-même et que vous avez certainement expérimenté, la deuxième chose qui vous permet de rester rempli, c'est l'adoration et la louange. Amen. Alléluia. Un ancien doit être un homme qui adore Dieu et qui conduit le peuple de Dieu dans l'adoration. Si je peux vous donner une clé pour apporter la bénédiction aux autres, ayez cet esprit d'adoration. Et conduisez le peuple de Dieu dans l'adoration. Vous verrez, vous serez bénis et vous serez comme un fleuve d'eau vive pour les autres. Alléluia. Alléluia. L'esprit d'adoration et de louange, c'est vital, important. Et on le sent quand quelqu'un a cet esprit-là où il ne l'a pas, n'est-ce pas vrai? Ça se sent. Mais vous pouvez l'avoir. Qu'aucun dise, oui, mais moi, j'ai pas ça. Vous pouvez tous avoir cela. Commencez à louer, adorer. Et vous verrez que petit à petit, cet esprit se renouvellera en vous. C'est extraordinaire. Et vous pouvez apporter la bénédiction aux autres. Si tu veux obéir, si tu veux le louer. Et la louange aussi est un sacrifice, finalement. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que l'obéissance est un sacrifice, mais la louange est un sacrifice. N'est-il pas dit aussi dans l'Épître aux Hébreux que c'est un sacrifice de louange? Et pourquoi un sacrifice? Parce que ça nous coûte. Ça nous coûte. N'est-ce pas vrai? Parfois, on n'a pas envie de le louer, mais il faut le faire quand même. Parfois, on n'a pas envie d'adorer, mais il faut encore le faire. C'est un sacrifice, c'est quelque chose qui vous coûte. Mais c'est ce qui coûte qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ce qui nous coûte qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Oh, faisons-le. Un homme rempli du Saint-Esprit, obéissant et adorant le Seigneur. Alléluia. Et je termine une quatrième qualité. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il soit donc plein d'Esprit Saint et de quoi? Et de sagesse. Voilà la quatrième qualification. Un homme de sagesse. Et que veut dire un homme de sagesse? Il y a là aussi deux pensées maintenant qui vont nous aider à découvrir cette sagesse. Premièrement, un homme de sagesse sera un homme qui est rempli de la parole de Dieu. Vous n'aurez jamais la sagesse de Dieu si la parole de Dieu n'est pas rempli, n'habite pas abondamment en vous. C'est pourquoi la source de notre sagesse est dans ce livre divin. Amen. Alléluia. Et cette sagesse est à la disposition de chacun d'entre nous. Donc si nous voulons la sagesse, il faut que ce livre soit notre méditation, notre joie. Il faut que davantage, davantage, davantage que cette parole soit littéralement dans nos pensées, dans notre bouche, dans tous nos actes, que tout notre être soyez rempli de la parole de Dieu, il est dit. La parole de Christ. Soyez rempli. Parce que c'est la source de la sagesse. Écoutez-moi bien maintenant. Et la deuxième chose, parce qu'on peut connaître la parole de Dieu et mal l'appliquer. Et être sage, c'est pas seulement faire usage de sa connaissance. Attention, là il y a un point très important. C'est faire un bon usage de sa connaissance. Un homme sage, c'est cela. Parce qu'il y a des gens qui ont de la connaissance, mais qui n'ont pas de sagesse. Vous voyez la différence ? On peut donc avoir de la connaissance sans avoir de sagesse. Et la sagesse, c'est justement bien utiliser cette connaissance. C'est le comment, voyez-vous, c'est savoir comment utiliser cette connaissance. Voilà, celui qui sait comment utiliser la connaissance qu'il a, il est sage. Mais vous avez remarqué comme moi, il y a des gens qui savent beaucoup de choses, qui connaissent bien leur Bible. Mais alors, ils font gaffe sur gaffe. Toujours des pavés dans la mare. Poum, 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 poum. Ils donnent des versets à tort et à travers. C'est jamais au bon moment, ils arrivent toujours en retard. Ça va. Oui, il y a une connaissance, la tête est remplie, mais ils ne savent pas comment utiliser cette connaissance. Et le sage, c'est celui qui sait comment. Bon, alors comment il doit faire? Comment? Voilà, c'est tout simple. Premièrement, il doit connaître la parole, c'est sûr, la parole. Et deuxièmement, il doit aimer ceux que Dieu lui a confiés. Amen. Écoutez, ceci est très important. Parce que bien souvent, pourquoi on fait des gaffes? Pourquoi on tape toujours à côté? Parce qu'on considère un peu nos frères ou nos sœurs, ou ceux qui sont avec nous, comme des numéros, ou comme des gens inférieurs, ou comme des gens qui ne savent rien. Et alors, on parle sans amour, sans tact. Et voilà pourquoi on fait beaucoup de bêtises. Mais lorsqu'on commence à regarder quelqu'un, voilà, j'ai la connaissance. Mais la connaissance ne suffit pas. Je dois aussi aimer cette personne. Et si j'ai vraiment cet amour dans mon cœur, Dieu me donnera la sagesse, le tact pour savoir comment parler. Quand quelqu'un est rempli aussi de cet amour, Dieu lui donnera toujours la sagesse pour parler. Amen. Ceci est très important. Mais que votre amour diminue pour les personnes, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à dire des bêtises. Même si c'est la parole de Dieu, vous commencez à faire beaucoup de mal, car la lettre tue. La lettre tue. Mais vous dites, mais voyons, mais n'est-ce pas la parole de Dieu que j'ai donnée? Mais voyons, je lui ai donné un beau verset. Voyons, avec ça, ça devrait aller. Mais où il est maintenant avec ton verset? Ben, il est par terre, il est mort. Comment ça se fait? Ah oui, parce que la lettre tue. Mais c'est la charité qui édifie. La connaissance enfle, c'est la charité qui édifie. Alors, celui qui est sage, c'est celui qui non seulement a de la connaissance, mais il a aussi de l'amour pour les hommes. Vous saisissez ce que je veux dire? Et vous savez, quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous agissez différemment. Vous êtes toujours là pour dire la parole. Attention, être sage, certains ont confondu avoir de la sagesse et faire des compromis. C'est, vous savez, la limite est très étroite. Il y en a certains qui font que des compromis et ils pensent qu'ils sont sages. Non. Faire des compromis n'est pas être sage, c'est certainement un manque de sagesse. Parce que dans le compromis, qu'est-ce qu'on fait? On veut, soi-disant, aimer la personne, mais en mettant de côté la parole. Voilà. Voilà l'homme qui fait des compromis. Soi-disant, il aime la personne, mais il ne veut pas déranger. Voyez-vous? Et vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs, même des anciens et tout, ils ne veulent pas déranger. Oh, surtout. Non. Le faire des compromis, c'est justement, soi-disant, aimer, mais sans la parole. Alors là, ça n'ira jamais. Mais celui qui est sage, celui qui est plein de sagesse, c'est celui qui aime,
qui aime à un tel point qu'il donne justement cette parole, mais dans un bon esprit, dans un esprit d'amour. Il prêche la vérité dans la charité. Alléluia. Et je veux terminer par ces trois pensées. Un jour, quand j'étais en Afrique, j'avais donné une petite étude aux jeunes là-bas. Puis j'avais eu cette pensée. Comment aimer, s'approcher, comment manifester cette sagesse. Trois pensées m'étaient venues. Il faut avoir du tact. Quand on a du tact, on établit le contact. Et quand il y a un contact, pouf, c'est l'impact. Tact, contact, impact. J'ai trouvé que c'était pas mal. Amen. Du tact, il faut du tact. Du tact. Et ce tact se trouve dans la connaissance de la parole et dans l'amour de la personne, n'est-ce pas vrai? Les deux sont intimement liés. Seulement connaître la parole n'est pas suffisant. Il faut aimer la personne à qui vous adressez cette parole. Alors, il faut du tact. C'est pas annoncer la parole sans amour, c'est pas l'amour sans parole, non, ça c'est le compromis. Mais la sagesse, c'est justement ce tact où l'on trouve, où l'on est décidé à annoncer la parole, mais avec tact. Et ce tact produit le contact. Le contact. Et un ancien, un responsable doit être un homme de contact. N'est-ce pas vrai? C'est tragique quand un responsable, surtout un responsable, vous ne pouvez pas les approcher, par exemple. Combien de fois j'entends aussi les gens dire, moi je ne peux pas aller vers tel prédicateur parce que, je ne sais pas, il n'y a pas de... Voilà. On a l'impression que le prédicateur repousse les gens. Je n'ai pas de contact. Il n'y a pas d'atome crochu. Je ne veux pas dire que, bon, il y a certains prédicateurs qui nous plaisent plus que d'autres, d'accord. Oui, mais je parle maintenant de la qualité de la personne elle-même. On plaît à l'un, on peut ne pas plaire à l'autre, d'accord, c'est pas ça le problème. Mais que soi-même, en tant que responsable, qu'on ne soit pas un homme de contact, c'est quelque chose de tragique. C'est quelque chose de tragique. Un responsable doit justement être celui qui est là, qui favorise le contact, qui prépare le contact. Même si les autres ne vous plaisent pas, ou ne vous ne plaisez pas aux autres, ça ce n'est pas l'important. L'important c'est que vous soyez un homme de contact. Et lorsqu'il y a le contact, vous le savez comme moi, il y aura l'impact. Ainsi, je crois que j'ai assez parlé. Que le Seigneur bénisse ses paroles, bénisse nos deux chers amis. Et je peux leur dire que ce qu'il a commencé en eux, il l'achèvera. Alléluia. Et même si le Seigneur vous a repris d'une manière ou d'une autre, il ne reprend jamais pour condamner, mais toujours pour guérir, pour corriger, pour reprendre et pour fortifier. Alléluia. Pour aider, toujours pour aider. On n'a pas une puissance pour détruire, mais une puissance pour édifier, construire. Alléluia. Ainsi que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi cette parole pour chacun d'entre nous. Si nous avons ces qualifications, Dieu nous donnera aussi une tâche un jour. Amen. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous te louons pour ta parole. Nous voulons la serrer dans notre cœur. Et moi, le premier, je veux, Seigneur, te glorifier davantage. Je réalise mes faiblesses dans certains endroits. Mais, Seigneur, tu sais combien je désire te plaire et faire ta volonté. Et je crois que mes deux frères ici, ainsi que chacun d'entre nous, nous désirons vivre ce que l'on dit. Et ainsi, glorifie ton nom dans nos vies, dans nos familles et dans l'Église, afin que notre témoignage dans le monde soit une bénédiction. Merci, Père, et qu'en toute chose, tout ce que nous faisons, soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Gloire à ton nom, Seigneur.
Thank you.